chères auditrices, chers auditeurs d'Aligre FM 93.1 et notre site aligrefm.org. Vous êtes bien dans l'émission Philosophie au présent, un partenariat qui existe avec le Collège international de philosophie depuis 2018, ce qui commence à faire long. Et voilà, un très beau partenariat, de très belles émissions et un très bel accueil sur Aligre FM. J'en profite pour remercier tout de suite Armand Gury à la technique d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes bien en direct, mais vous savez que vous pouvez réécouter les podcasts de nos émissions sur le site d'aligrefm.org. Il ne faut surtout pas hésiter. Et il n'y a pas que philosophie au présent. Vous trouverez toutes les émissions de nos collègues dans les domaines de la société, de la culture, de la musique. Voilà, faites-vous plaisir. Allez écouter les podcasts qui sont mis en ligne. Voilà, et puis vous connaissez Instagram certainement, Facebook. Et j'en passe et des meilleurs. Et j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Isabelle Raviolo. Bonjour Isabelle.
Bonjour Nathalie, bonjour Armand.
Voilà,
bonjour à tous.
Merci, voilà, à tous d'être avec nous aujourd'hui. Isabelle, oui, les auditeurs vous connaissent bien votre voix, la voix historique. Nous sommes les deux voix historiques de cette émission qu'on a co-créée avec Isabelle Alfandari, qu'on salue si elle nous écoute, ancienne directrice du Collège international de philosophie, présidente importante pour notre institution. Voilà. Alors Isabelle, aujourd'hui, on a voulu adresser notre émission à nos jeunes auditeurs, hommes et messieurs, dames un peu plus âgés. Ne partez surtout pas. Voilà, c'est qu'en fait, nous sommes professeurs de philosophie, hein, Isabelle Raviolo et moi-même, et on s'est dit, bon, essayons de parler aujourd'hui de Pascal et d'un discours qui s'appelle « Trois discours sur la condition des grands », mais on voudrait l'adresser à ces jeunes lycéens qui découvrent la philosophie pour la première fois et qui vont peut-être avoir ce discours à travailler en classe. Et puis pour nos auditeurs les plus âgés, peut-être une première mise en bouche avec ce grand homme qu'est Pascal, n'est-ce pas Isabelle ?
Oui, et puis c'est vrai que c'est une émission qui s'adresse à nos jeunes, mais aussi aux moins jeunes,
voilà.
Car ces trois discours sur la condition des grands ont beau avoir plus de trois siècles, ils sont très contemporains, ce sont des discours éducatifs rédigés pour le futur duc de Chevreuse, Charles-Honoré d'Albert. Pascal les a rédigés vers 1660.
Oui, et c'est d'ailleurs Pierre Nicole qui a le premier donné à lire ces trois discours dans son traité de l'éducation, me semble-t-il.
Oui,
hein,
voilà. Tout à fait.
Voilà. Alors voilà, nous allons parler de Pascal, une adresse au jeune public et une adresse à des gens qui ne sont pas des philosophes. Je crois que c'est le parti pris de notre émission depuis le début qu'elle est créée.
Oui.
On essaie de rendre accessibles des philosophes qui sont éminemment complexes et subtils, on le verra ici avec Pascal. Alors une petite présentation de Pascal pour un petit peu se le remettre en contexte. Alors bon, il a eu une influence considérable dans la science et dans la morale. Hein. Ça va être les deux domaines dans lesquels Pascal a laissé une œuvre des idées qui sont décisives, notamment le moraliste que l'on connaît à travers son ouvrage Les Pensées, qui est un ouvrage en fait qui devait être une apologie de la religion chrétienne et qui en fait était un ensemble de brouillons et qui a été appelé par la suite Pensées, que tout le monde connaît au pluriel. Voilà, et les pensées, ça reste une référence. Peut-être on sera amené à en reparler, mais il y a des idées, voire des concepts comme le roseau pensant, ou en tout cas une image de l'humanité, la question du divertissement, le pari, dont on entendra un extrait à travers le film de Rossellini, le téléfilm de Rossellini qui s'appelait Pascal. Voilà, autant de notions dont notre temps continue à faire bon usage. Il est vrai que Pascal revient au goût du jour, alors qu'il avait été quelque peu oublié. On sait qu'il est un des pères de l'existence, qu'on appelle les philosophies de l'existence, et on pourrait tracer comme ça peut-être des lignes avec Kierkegaard. En tout cas, quelqu'un comme Alain disait « Pascal plaira toujours aux esprits libres par une manière de croire et de ne pas croire ». Alors moi, je n'étais pas une férue connaisseuse de Pascal. J'ai appris à le découvrir et à le trouver éminemment intéressant. On sera peut-être amené à en reparler, notamment par rapport à la question du moi, toute cette grande discussion qu'on pourrait esquisser avec Descartes. Alors, il est né à Clermont-Ferrand en 1623, quelques ouvrages. Bon, il a été élevé par son père, puisque sa mère est morte 3 ans après qu'il soit né. Il a écrit un essai sur les coniques en 1639. Il est, on le sait, en 1642, créateur de plans d'une machine à calculer arithmétique. Il a écrit un traité du vide, également, en 1647. Il avait une sœur qui est entrée au couvent de Port-Royal.
Il en avait deux.
Ah, deux sœurs. Une de ses sœurs donc est entrée au couvent de Port-Royal, voilà, et va donc prendre l'habit. Il a vécu une expérience mystique. Bon, vous en reparlerez, Isabelle, vous nous en reparlerez
oui,
de cette
oui,
expérience
oui.
mystique.
Oui,
elle est importante.
Faire allusion dans ce...
Voilà, qui nous a été conservé dans le mémorial. Voilà, il va désormais se consacrer à Dieu autour de ces années 54-55. Voilà, bon, on pourrait citer aussi la polémique des provinciales, 18 lettres. On pourrait effectivement citer aussi l'art de persuader ou de l'esprit géométrique, les postumes. Et puis, c'est sa fameuse apologie de la religion chrétienne, ensemble de brouillons qui vont donner les pensées, et il meurt en 1662. On y reviendra sur les influences, je ne veux pas m'attarder, je veux qu'on avance sur l'ouvrage, mais les concepts, on se les redit, les idées fondamentales de Pascal, le cœur, la raison, le divertissement, le cœur du latin cor qui signifie viscère, qui est le siège du sentiment, bon, une forme de connaissance immédiate et intuitive qui participe de l'affectivité et qui nous permet de saisir les premiers principes, les axiomes, Dieu. Il est la faculté du particulier et de l'individuel. La raison, la pensée discursive, cette faculté proprement humaine. Et le divertissement, cette grande critique des chemins de traverse que nous prenons pour ne pas faire face à notre néant. Et à Dieu aussi, à la pensée qui s'élève à Dieu. On y reviendra, j'ai manqué beaucoup de choses également, mais au moins on a comme ça une base de vocabulaire et de concepts. Alors, allons-y sur ce discours sur la condition des grands.
Les trois.
Les trois.
Il y en a trois.
Voilà, il y a trois discours sur la condition des grands. Si on essaie un petit peu de revenir sur la thématique générale d'abord de ces trois discours, pour après peut-être les travailler un par un, il s'agit finalement de la condition des grands, n'est-ce pas ? De leur place dans la société ?
Oui, d'où l'importance du destinataire, ce futur duc de Chevreuse, à qui ces trois discours sont adressés, pourquoi et les auditeurs, et en particulier nos jeunes de terminale, doivent bien comprendre que Pascal a pour intention de dire à ce jeune homme « Vous serez duc, mais ne vous prenez pas pour un duc ». C'est-à-dire qu'il est en train de mettre en lumière une double pensée, comme il le dit dans le second discours, et dont il reparlera dans cette liasse des pensées intitulée « La raison des effets ». Alors j'expliquerai aux élèves, aux jeunes auditeurs, pourquoi cette intitulée « La raison des effets », c'est important. Dans la raison des effets, ce classement des pensées, il va parler d'une pensée de derrière, pour dire cette autre pensée. C'est-à-dire que si l'on éduque par vertu d'établissement, parce que c'est un titre que la société et l'époque nous attribuent. Aujourd'hui, on pourrait parler du président, PDG, etc. Bref. Pascal attire l'attention sur l'importance de distinguer, de faire la différence entre cette vertu d'établissement qu'est le titre et la vertu naturelle.
Voilà. Donc, ça, c'est ce qui va tracer une des grandes lignes directrices de ces trois discours.
C'est fondamental. Tout le titre par lequel vous possédez votre bien, dit Pascal, n'est pas un titre de nature, mais d'un établissement humain. Un autre tour d'imagination dans ceux qui ont fait les lois qui auraient rendu pauvres, et ce n'est que cette rencontre du hasard qui vous a fait naître avec la fantaisie des lois favorables à votre égard, qui vous met en possession de tous ces biens. Alors, important pour nos élèves, il y a quelque chose là, quand j'ai travaillé hier sur ces trois discours, qu'il m'a semblé important de dire, c'est que le premier discours, qui lance les deux autres au fond aussi, commence par une image, un peu comme une allégorie chez Platon.
Oui, une étrange fable. Hein, donc ces trois discours, il y a trois discours, le premier c'est comme une étrange fable. Alors rappelons un petit peu comment commence cette étrange fable. Un homme arrive sur une île et rencontre un peuple qui voit en lui un chef. Hein, si on va un peu vite, mais on lira un petit passage. Je lis d'ailleurs, profitons-en. Hein. Un homme est jeté par la tempête dans une île inconnue dont les habitants étaient en peine de trouver leur roi qui s'était perdu. Ayant beaucoup de ressemblances de corps et de visage avec ce roi, il est pris pour lui et reconnu en cette qualité par tout ce peuple. Alors, il y a quelque chose d'intéressant qui débute tout ce premier discours. D'abord, le hasard.
Il y a le hasard, donc les élèves doivent vraiment faire attention aux repères, nécessité, contingence.
Tout à fait.
Donc, ça aurait pu ne pas être, et puis ça a été, mais c'est un fait de hasard.
Voilà.
Donc il n'y a rien, là encore, qui serait de l'ordre d'une nécessité naturelle. Ce gars-là, je reprends le texte que tu as lu, Nathalie, a été jeté par la tempête.
Tout à fait.
C'est une image du monde qui nous jette dans l'existence.
Tout à fait. Avec une part de contingence, de hasard.
Exactement.
Voilà. Et donc finalement, c'est une manière de dire, attention, le poste que tu vas occuper, le poste de pouvoir que vous occupez, ça n'est pas un poste lié à votre nature, c'est pas lié à votre dignité. C'est lié finalement à quoi ? Aux circonstances sociales.
Oui.
Voilà, qui ont fait que, précisément, vous avez été adopté comme chef. Mais il y a autre chose, il y a aussi le regard du peuple, qui finalement désire aussi une apparence de chef. Il y a là, dès le début dans ce discours, une ambivalence très intéressante chez Pascal.
Complètement.
Hein, pas d'illusion. Vous êtes chef, mais c'est les circonstances, c'est du hasard, c'est de l'incontingence, vous auriez pu naître pauvre, etc., etc. Tout ça est culturel. Mais d'autre part, il y a aussi une critique, hein, une mise en question de ce peuple qui a besoin des apparences et qui se satisfait des apparences de ce pouvoir, qui croit d'une certaine manière.
Bien sûr, il faut qu'il y croie d'ailleurs. Sinon, s'il n'y croyait pas, tout tomberait. C'est comme, si vous voulez, un théâtre avec son décor. Et ce qui est intéressant, c'est que 65 ans plus tard, Marivaux s'en souviendra quand il écrira « L'île des esclaves
». Oui.
Où il s'agit là aussi d'une utopie qui transporte le lecteur sur une île antique, où l'ordre social est complètement renversé. Les maîtres deviennent des valets, les valets deviennent des maîtres. Et Trivelin, qui dirige l'île des esclaves, va intervertir les rôles. Mmh. Alors Iphicrate, le maître, va se retrouver valet. Arlequin, le valet, va se retrouver maître. Euphrosyne, la maîtresse, devient la servante de Cléantis, qui était sa servante. Et alors, dans cette espèce d'imbroglio où il y a un vrai renversement carnavalesque, Marivaux dénonce, comme Pascal avant lui, l'hypocrisie, les vanités de ce monde, l'immoralité des puissants, leur narcissisme et leur égoïsme. Mais alors, en relisant la pièce hier soir, j'ai renoté un élément qui m'a paru tout à fait étonnant, c'est quand Arlequin prend la parole au dernier acte et dit « Nous sommes aussi bouffons que nos patrons, mais nous sommes plus sages.
» Excellente. Il y a bien qu'Isabelle Raviolo pour faire de tels rapprochements magnifiques. Alors, je reviens un petit peu, donc, voilà, la qualité, l'attribut du pouvoir, finalement, tout ça, c'est un petit peu une illusion, ça n'est que le fruit du hasard. Le pouvoir est tout à fait contingent, il est culturel. Mais revenons un petit peu sur cette idée de la double pensée. Hein. Parce que ce naufragé qui arrive, finalement, c'est d'ailleurs une belle image, mais c'est l'image que le duc devra coller. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir une illusion précisément sur sa fonction. Ouais. C'est ce que vous appeliez à l'instant, Isabelle Raviolo, l'idée d'une double pensée. Donc, c'est quoi cette double pensée ? Je me permets, pour vous laisser prendre un peu votre respiration, de lire quelques phrases à nos auditrices et auditeurs. Ainsi, il avait une double pensée, hein, donc ce naufragé qui est pris pour un roi. L'une par laquelle il agissait en roi, l'autre par laquelle il reconnaissait son état véritable et que ce n'était que le hasard qui l'avait mis en place où il était. Il cachait cette dernière pensée et il découvrait l'autre.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors, c'est intéressant, cette arrière-pensée. C'est quoi ? C'est comme un dédoublement de la personnalité ?
Non, je ne dirais pas un dédoublement de la personnalité, ni de prime abord une arrière-pensée. Il me semble qu'il s'agit davantage d'une dimension de conscience, beaucoup plus profonde. D'ailleurs, Pascal le dit, si vous agissez extérieurement avec les hommes selon votre rang, c'est tout à fait légitime,
oui.
Et vous devez vous faire reconnaître selon votre rang, jouer le jeu social du rang qui est le vôtre, avec les honneurs qui vous sont dus, mais sachez que vous êtes sur une scène de théâtre, en gros.
Oui.
On retrouve la même idée chez les stoïciens du stoïcisme impérial. Et puis, vous devez aussi agir en même temps que vous paradez sur la scène avec ce rôle qui est le vôtre, selon une pensée plus cachée, mais beaucoup plus véritable, au fond, pour Pascal, et qui vient vous dire que vous n'avez rien naturellement à voir avec ce rôle. Que ce rôle, ce n'est pas le soi profond, ou ce que Ricoeur bien plus tard appellera l'ipséité,
oui,
vous voyez.
Oui.
Mais c'est l'ego.
Oui.
Et l'ego, bon, voilà, on l'a tous.
Oui.
Et on a beau le couvrir, comme il le dit à Miton, on ne l'ôte pas.
Oui, il y a une mise, en question d'un ego qui spontanément se penserait dans une supériorité, une transcendance qu'il n'a pas en vérité.
C'est là la subtilité chez Pascal que nos jeunes doivent bien comprendre. Il ne s'agit pas pour Pascal de dénoncer cet ego.
Oui.
Il ne s'agit pas pour Pascal de dire qu'ils doivent disparaître ou être annihilés. Il s'agit au contraire de rendre justice. Et vous parliez de l'identité tout à l'heure, c'est intéressant parce que quand Pascal dit que nous n'avons des qualités qu'à louer, en fait, que ces qualités ne sont pas nous, on a beau être intelligent, avoir de l'humour, être beau, c'est pas nous-mêmes, mais des qualités qui nous sont allouées, dit Pascal.
Oui.
Et ce serait fort injuste d'aimer quelqu'un pour autre chose que ses qualités puisqu'on n'a pas accès au soi profond. De même, ici, c'est la conscience intime de la personne qui doit tout à fait savoir qu'elle n'est pas ce qu'elle a comme titre, honneur ou qualité. Donc Pascal dit que pour nous qui sommes sur cette scène de théâtre dans le monde politique, dans le monde social, nous n'avons affaire qu'à des apparences, puisque les fondements sont cachés. Dieu est caché. Donc la vérité, nous n'y avons pas accès en tant que vérité absolue. Le fondement est obscur pour l'homme parce que sa raison ne peut pas y accéder. Donc à partir de cette double pensée, on peut comprendre qu'il ne s'agit ni d'une schizophrénie, ni d'un dédoublement de pensée, ni simplement d'une arrière-pensée, mais un peu comme dans le paradoxe du comédien Diderot, une manière de se dire « là je joue un rôle, c'est une fonction que je dois bien jouer ». Je dois bien faire mon travail, je dois être consciencieux, parce que tout tient dans ce monde à ça, à des cordes d'imagination. Il le redira dans la pensée 44 en La Fuma. Et si ça tient par des cordes d'imagination, voilà, il est nécessaire de faire tenir ce décor. Sinon, tout s'effondre et là, il n'y a plus de société.
Oui, c'est pas le but de faire effondrer la société.
Mais comme il s'adresse à un duc, un futur duc, il veut l'éduquer en homme habile, pas un demi-habile. Et pas comme le peuple qui, là, pour le coup, se fait prendre au piège de l'illusion. Alors que le demi-habile dénonce, à la manière un peu d'Alceste, « Tous les gens sont pourris, le monde est pourri, je me retire sur une île », voilà, la misanthropie d'Alceste, la trabilaire amoureux, c'est ça. Il est en train de dire « Non, reste dans le monde, parce que de toute façon, il n'y a que ça ici. »
Oui, alors on y reviendra, parce que c'est quand même aussi un discours qui se veut moralisateur des plus grands. Je propose de faire écouter un extrait du très beau téléfilm de Roberto Rossellini sur Pascal, qui date de 1972, un extrait très court de 2 minutes sur précisément le pari.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Vous avez gagné. Les chrétiens professent une religion dont ils ne peuvent rendre raison. Et ils déclarent même que le faire serait une sottise.
Sans doute. Mais c'est en manquant de preuves qu'il ne manque pas de sens.
Comment cela ?
Parce que Dieu est infiniment incompréhensible. Et le comprendre par la raison est une contradiction dans les termes. puisque cela revient à notre raison étant bornée, à mettre des bornes à l'idée de Dieu. Dieu est-il, n'est-il pas ? La raison n'y peut rien déterminer, sauf en cela qu'elle sait qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Vous n'êtes ni sceptique, car le sceptique sait bien qu'il y a dans l'homme un besoin de certitude, et vous n'êtes pas homme à vous contenter d'à peu près, ni dogmatique, car nous savons tous que la vie est incertitude et changement continuel. Alors, que vous reste-t-il ? Dieu est-il, n'est-il pas ? De quel côté pencherez-vous ? Comme le jeu se joue à une extrémité infinie, il vous faut parier. Vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes embarqué. Or, ni pour la raison, ni pour le cœur, il n'est satisfaisant de parier sur ce qui est fini. Pourquoi ? Parce que si vous pariez sur ce qui est fini et limité, en gagnant, vous ne gagnez rien. Et en perdant, vous perdez tout. Si vous pariez au contraire sur l'infini, en gagnant, vous gagnez tout. En perdant, vous ne perdez rien.
Mais entre-temps, ne restons-nous pas dans l'incertitude ?
Sans doute, mais vous espérez. Et au lieu de compter sur vos seules forces personnelles, ce qui est une façon de désespoir, vous espérez dans la valeur incarnée d'une existence qui vous dépasse.
Et si je perds ?
Vous aurez mené le bon combat et gagné à être un ami sincère et bienfaisant. Peut-être aussi Dieu se fera-t-il connaître à vous entre-temps.
Voilà, merci. On venait d'écouter à l'instant un... Merci à Armand Gury, à la technique. On venait d'écouter à l'instant Pierre Arditi, l'acteur Pierre Arditi qui jouait dans le téléfilm de Roberto Rossellini qui était sorti en 1972, un téléfilm intitulé Pascal. Et c'est donc Pierre Arditi qui joue le rôle de Pascal dans cet extrait célébrissime, oui, du Paris.
Magnifique, Pierre Arditi dans ce rôle. Hein.
Superbe. Et puis bah, là, on est dans le moment chez Rossellini d'un cinéaste qui considère que le cinéma permet de véhiculer la culture, voire une philosophie populaire. Il y a aussi son Descartes, il y a aussi son Socrate. Voilà, bon, peut-être on sera amené à en reparler, à faire une spéciale Rossellini et la philosophie. Je lis, pour reprendre un petit peu ces trois discours sur la condition des grands, vous êtes bien toujours sur Philosophie au présent avec Isabelle Raviolo et moi-même Nathalie Perrin. Pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, Isabelle, je lis donc toujours vers la fin de ce premier discours. Hein, que s'ensuit-il de là ? Que vous devez avoir, comme cet homme dont nous avons parlé, hein, donc ce naufragé qui arrive sur cette île, une double pensée, et que si vous agissez extérieurement avec les hommes selon votre rang, vous devez reconnaître, par une pensée plus cachée mais plus véritable, que vous n'avez rien naturellement au-dessus d'eux. Si la pensée publique vous élève au-dessus du commun des hommes, que l'autre vous abaisse et vous tienne dans une parfaite égalité avec tous les hommes, car c'est votre état naturel. Splendide citation. On a bien affaire de toute façon dans ces trois discours à une forme de moralisation aussi du dirigeant, du futur dirigeant. Est-ce que c'est pas une manière de rabaisser l'ego lié au pouvoir, l'ego lié à l'apparence dont vous parliez tout à l'heure, Isabelle Raviolo, cette apparence qui peut satisfaire, hein, qui satisfait l'œil, mais qui ne satisfait pas le philosophe.
Alors, il faudrait revenir sur cette expression que j'ai employée avant l'extrait de Rossellini, la raison des effets. Pour le physicien, tout phénomène est l'effet d'une cause. Dans les choses humaines, il en est de même. Sauf qu'en matière morale, la cause est le principe, la raison qui contient la justification de tel ou tel fait. Par exemple, les hommes passent leur temps en diverses occupations à la manière du chasseur qui court son lièvre et qui n'en voudrait pas s'il lui était offert. Je renvoie à l'alias sur le divertissement. Ou bien ils honorent des vertus d'établissement qu'ils cesseraient de respecter s'ils savaient qu'elles ne sont que grandeur conventionnelle. Tout ça pour dire que Pascal va déplacer nos perspectives sur un même phénomène. Pourquoi ? Pour signifier que nous n'avons, nous les hommes, pas accès à cette vérité dans son fondement même, en son principe, et que nous créons, par des cordes d'imagination, tout un ensemble de valeurs. Et précisément, quand Pascal dit que le peuple a une ignorance naturelle, c'est pour ça qu'il est fasciné par les stars aujourd'hui, ou les influenceurs, hier les rois, les ducs, les comtes. Mais elle est, dit Pascal, le vrai siège de l'homme, cette ignorance naturelle, n'est-ce pas ? Par ses seules forces, notre raison ne peut pas accéder à la vérité. Nous sommes donc renvoyés à notre nature fragile, corrompue.
Oui, finie, d'une certaine manière finie. Nous avons une nature finie et l'infinité de Dieu, nous n'y avons pas accès.
Oui, bah parce que finalement...
Et l'absoluité, nous n'y avons par conséquent pas accès.
Et c'est très intéressant ce que vous dites, parce que plus on sait qu'on ne sait pas.
Oui.
Et c'est là que l'extrait que vous avez passé doit faire allusion, en rapport avec ce second discours, au texte des trois ordres de Pascal. C'est important de dire que la distance infinie des corps aux esprits figure la distance infiniment plus infinie, chez Blaise Pascal, des esprits à la charité. Donc le monde de Pascal, c'est un monde fracturé. Il n'y a pas de commune mesure d'un ordre à un autre. Ce sont trois ordres différents de genre.
Oui.
Mais il y a un ordre qui surpasse tous les autres. De tous les corps et esprits, on en saurait tirer un mouvement de vraie charité. Et cela est impossible, parce que c'est d'un ordre surnaturel. Donc, dès lors qu'il y va des grands selon la chair, premier ordre, dès lors qu'il y va des grands selon l'esprit, deuxième ordre, tel Archimède, c'est l'exemple qu'il prend, il y a deux mondes, c'est deux univers radicalement différents. Eh bien, pour le troisième ordre, il s'agit vraiment d'une réalité complètement distincte. C'est donc impossible de concevoir cette pensée de derrière, ou même de l'exercer, si on n'a pas conscience qu'il y a trois ordres, en fait.
Oui.
Et sinon, on va se prendre pour un duc. Sinon, on va se prendre pour quelqu'un qui est vraiment au-dessus des autres. Et par nature. Et c'est là que vient le discours que vous, enfin le passage du second discours que vous avez cité et qui fait écho à une très belle pensée de Pascal où il dit que le plus grand de tous les maux est les guerres civiles. Elles sont sûres si on veut récompenser les mérites, car tous diront qu'ils méritent. Elles sont sûres, c'est-à-dire qu'on est sûr d'avoir une guerre civile quand on commence à dire que quelqu'un a par nature ce mérite. Donc il vaut plus que vous, mais par nature. Le mal à craindre d'un sot qui succède, un sot, S-O-T, hein,
oui.
qui succède par droit de naissance, n'est ni grand, ni si grand, dit Pascal, ni si sûr. Il a résumé la situation politique de son temps et de la nôtre.
Oui.
Rien n'a changé sous le soleil, si je puis dire. De son temps, parce qu'effectivement, il y a une attaque en règle de la monarchie absolue de droit divin dans les pensées de Pascal.
Oui, bien sûr.
On est bien d'accord. Et là, il y a une attaque en règle contre tous ces politiques qui confondent vertu d'établissement et vertu naturelle. Donc, Pascal est très clair, et là, il se situe contre Montaigne, la coutume doit être suivie parce qu'elle n'est que coutume, non parce qu'elle est raisonnable ou juste.
Allègre FM 93.1.
Oui, en lisant, alors je ne sais plus où exactement, mais en relisant ces trois discours, je me disais qu'il y avait vraiment, on pouvait faire une relation notamment avec Socrate, c'est-à-dire quand Socrate il dit, il vaut mieux subir l'injustice que d'en être à l'origine. Il y a cette idée qu'il ne s'agit pas de faire la révolution ou de créer le chaos. Il y a ça aussi à l'intérieur des trois discours de Pascal, avec ce rappel, constant qu'il ne s'agit pas de s'opposer, il s'agit de bien voir, et en tout cas pour celui qui va diriger, de bien se voir, de bien se connaître, de bien connaître la place qu'il a dans le monde, en fait.
Oui, et ça ne m'a pas tant fait penser à Socrate qu'à ces tableaux de Philippe de Champaigne, qui était janséniste comme Pascal, ces vanités,
Oui, oui, oui.
Vanité des vanités, tout est vanité, dit le livre de l'Ecclésiaste dans la Bible. Et cette très belle fable d'Antoine Vincent Arnaud, hein, né en 1766, mort en 1834, qui a écrit une fable intitulée « Les bulles de savon ».
Oui.
Alors on peut penser à Pierre-Gilles de Gênes avec les bulles de savon, mais on peut penser à cette fable dont j'ai retenu certains vers. « Tous les jours on voit des marmots avec un peu de vent, gonfler un peu d'écume, tous les jours, avec de grands mots, pour l'heureux du moment, main seau fait main volume. » Alors moi je trouve que c'est formidable.
Ouais, comme...
C'est-à-dire que si avec un étron on fait un sermon, comme le disaient nos grands-mères, on voit nos politiques parader sur la scène, à la manière de ce cabotin qui parade dans Macbeth de Shakespeare, et qui disparaît au bout de 2 minutes. Mais alors, bien sûr, qui a conscience d'être mortel là-dedans?
Oui.
Tous se divertissent, et le plus grand malheur des hommes est bien de ne pas tenir en repos dans une chambre,
bien entendu, et de chercher le divertissement. Alors bon, vous avez compris, on pourrait écrire évidemment un livre entier sur ces 3 discours sur la condition des grands. Alors, tout au début du second discours, je cite Pascal. « Il y a dans le monde 2 sortes de grandeurs, car il y a des grandeurs d'établissement et des grandeurs naturelles. Les grandeurs d'établissement dépendent de la volonté des hommes qui ont cru, avec raison, devoir honorer certains états, états en E minuscule, et y attacher certains respects. Les dignités et la noblesse sont de ce genre. En un pays, on honore les nobles, en l'autre, les roturiers, en celui-ci, les aînés, en cet autre, les cadets. Pourquoi cela? Parce qu'il a plu aux hommes. La chose était indifférente avant l'établissement. Après l'établissement, elle devient juste, parce qu'il est injuste de la troubler. Les grandeurs naturelles sont celles qui sont indépendantes de la fantaisie des hommes. C'est très beau, hein, ces 2 grandeurs. Hein, on ne peut jamais les oublier. Hein. Celles d'établissement, celles qui sont finalement inscrites dans une société, dans une culture, inscrites par des lois ou des coutumes.
Mmh.
Et puis les grandeurs naturelles. Ce sont quoi ces grandeurs naturelles? Alors c'est cette égalité dont il nous parlait à l'instant, Pascal, cette égalité entre les hommes. Mmh. Ne crois pas que tu sois plus qu'un autre.
Alors, pour revenir aux grandeurs d'établissement qui ne dépendent que de la volonté des hommes, j'attire l'attention des élèves sur le texte en lui-même et sur l'analyse du texte. Pascal emploie le verbe « croire ».
Oui.
Les grandeurs d'établissement dépendent de la volonté des hommes qui ont cru.
Oui.
Mais Pascal ajoute « avec raison ».
Oui, c'est ça.
« Devoir honorer certains états ». Donc, nous n'avons que ça.
Oui.
Dans ce théâtre du monde qui ne tient qu'à des cordes d'imagination. Et je rappelle la définition de l'imagination chez Pascal, elle est géniale. Cette partie dominante dans l'homme, cette maîtresse d'erreur et de fausseté, d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujours.
Oui.
Car elle serait règle infaillible de vérité si elle l'était infaillible du mensonge. Je passe un long passage de cette pensée 44, et là il dit le plus grand philosophe du monde, sur une planche plus large qu'il ne faut. S'il y a au-dessous un précipice, quoique sa raison le convainque de sa sûreté, son imagination prévaudra. Plusieurs n'en sauraient soutenir la pensée sans pâlir et suer. C'est génial.
Oui.
Ça veut dire que la raison a beau crier, elle ne peut mettre son prix aux choses, chez Pascal. Donc, la raison a beau crier dans le monde, c'est pas vrai, tout le monde dira c'est vrai.
Oui.
Parce que tout le monde veut y croire. Et c'est cette force de la croyance dont nous parle Pascal, qui est une force de l'imagination.
L'imagination, productrice d'images, c'est productrice de plaisir, de désir, et d'irréalité, de fausseté, d'erreur, de mensonge. C'est la mise en question de la toute-puissance de la raison.
Oui, et c'est pourquoi on peut dire que l'homme du divertissement, c'est l'homme de la caverne, chez Platon, dans l'allégorie du livre 7 de la République. Pourquoi? Parce que si vous me posiez la question tout à l'heure, Nathalie, mais quelles sont ces grandeurs naturelles? Eh bien, ce sont ces grandeurs qui consistent dans les qualités réelles et effectives de l'âme ou du corps. Donc ce sont des grandeurs qui seraient vos qualités propres, votre être, et pas votre... votre rôle.
Oui.
Hein, il y a une différence à faire
entre l'apparence,
le rôle et l'être. Il y a quelque chose qui sera aussi très proche de Pascal chez Rousseau quand il différenciera l'amour de soi et l'amour propre, ce monde des apparences et ce monde de l'être. Quand Rousseau écrit son discours sur les sciences et les arts, il dénonce précisément cette espèce de parade sociale, de fête galante, hein, où tout est complètement futile, éphémère et vain. Donc la pensée derrière, c'est bien le propre de l'homme habile qui a du recul et qui sait distinguer les vertus naturelles des vertus d'établissement, mais ça lui demande un véritable travail
bien sûr.
En lui-même, un bien véritable sûr. Combat. La pensée derrière, c'est bien juger. Et je rappelle que Pascal disait « travaillons donc à bien penser », c'est le principe de la morale. Donc en différenciant ce qui est de l'ordre des apparences et des mondanités, des honneurs, des titres, hein, Nathalie, et ce qui est de l'ordre du cœur et de l'âme, voilà les vertus naturelles. Et ces vertus naturelles ne sont, chez Pascal, pas à vous, Nathalie, ou à moi, Isabelle, ou à nos chers auditeurs qui nous écoutent, mais elles viennent de Dieu.
Oui.
Et là, on a Pascal dans toute sa subtilité. Si Dieu est caché, et si on a conscience de nos grandeurs naturelles, on ne peut pas s'en dire les maîtres ou les possesseurs. Donc, ce ne sont pas des grandeurs qui nous reviennent à nous. Parce que sinon, on les agiterait comme autant de hochets ou de titres pour notre gloriole personnelle.
Oui, oui.
Et quand Pascal revient sur cette réalité-là, à travers d'ailleurs l'extrait que vous avez passé, Nathalie, il renverse complètement nos certitudes communes, nos préjugés, nos représentations culturelles. Et donc, son enjeu à Pascal, ici, est bien de dire au futur duc de Chevreuse de ne pas être dupe du théâtre du monde, de cette comédie humaine où le jeu social porte au nu les uns et cloue au pilori les autres. Car tout est vanité et tout cela ne tient donc qu'à des cordes d'imagination. C'est vrai que quand je reprends ce texte de Pascal sur l'imagination, c'est génial, j'en cite un autre passage. L'imagination dispose de tout, elle fait la beauté, la justice, le bonheur, qui est le tout du monde. Il faut lire les livres de Pierre Guénantia sur Pascal, parce que c'est un des meilleurs commentateurs, je trouve. Après Jean Ménard, qui a été l'ancien grand commentateur de Pascal, et il a bien montré comment Pascal voit le politique et la société comme un jeu de théâtre, où tout. Et alors, les poulies, c'est l'imagination, le système des décors qui change. Mais alors on y croit, on est fasciné. Et alors a fortiori aujourd'hui, où on a ce monde des réseaux sociaux, ce monde où les gens n'arrêtent pas de se photographier, de prendre des selfies, donc où la vie se vit par la photographie. En fait, on photographie sa vie, on ne la vit plus plutôt. Et là, on voit le pouvoir de l'image. On voit le pouvoir de l'image, donc de la fabrique d'images, l'imagination. Et on est pris dans ce jeu de miroir, de dupe.
Oui, tout à fait. Alors, peut-être en tout cas pour la fin de ce second discours, je lis encore quelques phrases, puisque le but aujourd'hui est vraiment de donner à écouter quelques phrases de ce discours sur la condition des grands, trois discours sur la condition des grands, ô combien actuels. Alors, je cite... Si vous étiez duc sans être honnête homme, je vous ferais encore justice, car en vous rendant les devoirs extérieurs que l'ordre des hommes a attachés à votre naissance, je ne manquerais pas d'avoir pour vous le mépris intérieur que mériterait la bassesse de votre esprit. Voilà en quoi consiste la justice de ces devoirs, et l'injustice consiste à attacher les respects naturels aux grandeurs d'établissement ou à exiger les respects d'établissement pour les grandeurs naturelles. Donc là, il y a un passage très intéressant, très critique, très critique, sur la vanité et sur finalement la confusion que font les grands de ce monde entre ce qui peut être exigible lié à leur fonction et lié finalement, on pourrait dire, à une forme de stabilité sociale et ce qui n'est pas exigible. C'est-à-dire ne pas confondre la position sociale et on pourrait dire l'être même de la personne, c'est-à-dire quelle est-elle vraiment. Or, il y a un brouillage lié précisément à la fonction de pouvoir, lié aux apparences, il y a un brouillage. Un roi, finalement, nous aveugle sur ce qu'il est véritablement dans son être propre. Il peut être quelqu'un de complètement vil, il peut être quelqu'un n'ayant aucune justice, aucune morale. Donc il y a là, il y a quelques lignes comme ça de Pascal, de remise en question de ce pouvoir qui pense toujours être au-dessus des autres et qui confond finalement la fonction et la réalité de la véritable morale, de la vertu.
Oui, mais il y a une anthropologie assez pessimiste tout de même chez Pascal. Mmh. Ça, je reviendrai sur ce que vous dites, là, Nathalie, dans la mesure où Pascal dit qu'on vit dans un monde de dupes, qu'il n'y a rien à faire contre ça. Je veux dire, c'est un monde de mensonges, d'illusions. Et si on a des vertus d'établissement et des vertus naturelles, il prévient le futur duc de Chevreuse de ne pas les mélanger, mais d'accorder tout de même aux vertus d'établissement le respect qui leur est dû.
Oui.
C'est-à-dire qu'il lui dit de jouer son rôle de duc.
Oui.
Il lui dit de tromper le peuple.
Mais qui est un respect encadré précisément dans une fonction et un rôle.
Oui.
Qui est admis socialement et qu'on doit jouer.
Et qu'on doit jouer parce que la vérité, on n'y a pas accès en ce monde.
Oui, oui.
Ce monde est comme, les élèves comprendront, une matrice.
Oui.
Alors, on est dans la matrice et en même temps, on est hors d'elle, si vous voulez. On a un peu le regard de Néo, mais on reste là-dedans, mais sans en être la dupe. Mais on est suffisamment habile, c'est le terme qu'emploie Pascal, pour ne pas tempêter et crier et détruire et faire une guerre civile, détruire cette comédie-là, parce que c'est la seule. De toute façon, si on la détruit, une autre reviendra la même, voire pire. Donc ça ne sert à rien, parce qu'en ce monde, on n'a pas une justice en soi. Donc là, on est anti-Platon. Hein.
Oui,
on n'a pas, en tout cas le jeune Platon, on n'a pas une vérité en soi et on n'a pas une bonté en soi. On n'a que de l'hypocrisie, une coutume et de l'imagination. Alors, autant faire au mieux pour que ce monde tienne à peu près, mais sans être la dupe de ce monde.
Sans être dans l'illusion.
Sans être dans l'illusion.
Et dans le mélange.
Le mélange. Ouais. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que moi, je trouve que nos politiques, puisque vous en parliez, me font penser à cette fable de Florian, ce fabuliste du XVIIIe siècle, intitulé « Le petit chien ». Alors, c'est une fable que j'invite nos auditeurs à lire parce qu'elle est géniale. La fin de la fable, hein, c'est un chien qui va rencontrer un lion. Et la fin de la fable est tout à fait intéressante puisque là, pour le coup, le lion se prend pour le lion. Mmh. Il n'y a pas de pensée derrière. Un barbare, à l'âge où je suis, m'obligeait à renoncer aux lieux qui m'ont vu naître sans appui, sans secours, dans un pays nouveau. Je vais, les yeux en pleurs, demander un tombeau qu'on me refusera peut-être. Ô tyran, tu le veux, allons, il faut partir. Un barbet l'entendit, touché de sa misère. Quel motif, lui dit-il, peut t'obliger à fuir ? Ce qui m'y force, ô ciel, et cet édit sévère qui nous chasse à jamais de cet heureux canton. Nous, non pas vous, mais moi. Comment, toi, mon cher frère, qu'as-tu donc de commun ? Plaisante question. Et ne suis-je pas un lion ?
Oui, c'est vraiment une mise en question du moi. Hein.
Le
moi, comment on pourrait les dire ?
Égocentré,
égotiste, le moi qui s'y croit. Absolument, le moi qui s'y croit.
Le moi qui croit qu'en fait, son apparence de moi est son être moi.
Voilà, c'est ça.
C'est ça,
absolument.
Problème.
Bon, Isabelle, on pourrait continuer encore à parler, mais on va écouter un second extrait avant de clore tranquillement cette émission consacrée aux trois discours sur la condition des grands de Pascal. Un second extrait donc de ce téléfilm intitulé Pascal, qui avait été réalisé par Roberto Rossellini, Pascal contre Descartes.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Vous avez dit, monsieur, que vous aviez appris à conduire vos pensées en commençant par les objets les plus simples pour monter peu à peu vers les plus compliqués. Pour établir cette belle construction, il vous faut donc des fondements dont la solidité ne fasse aucun doute. Or, le seul fondement que vous nous proposez est le discernement de votre raison, qui est ici, je l'entends bien, le symbole de toute raison humaine. Or, cette raison me semble très peu assurée de la place qu'elle occupe dans le monde. Elle existe, certes, mais située malaisément entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, et telle que vous la décrivez vous-même, déçue par l'inconstance des apparences, incertaine quant à ses limites. De plus, ce n'est pas elle, mais le cœur qui nous dit qu'il y a trois dimensions dans l'espace. Et donc ce n'est pas par continuité de raisonnement, mais bien plutôt par intuition brutale et rupture que nous réussissons à partager entre nous quelques certitudes. Et ces dimensions de l'espace où nous sommes ne se peuvent compter. Elles n'ont pas de quantité car elles sont sans bornes et infinies et n'existent que par la qualité de ce qu'elles sont. Or, à vous entendre, on pourrait croire que pas à pas, augmentant sans cesse leur connaissance, les hommes parviendront un jour à comprendre toute la machine du monde, à la façon d'un spectateur qui, placé dans la coulisse d'un théâtre, comprend de quelle manière le char du héros s'élève dans les airs. Mais l'univers infini dans lequel nous sommes ne cessera pas d'être infini, tandis que nos connaissances, elles ne cesseront jamais d'être finies et limitées, quelles que soient les nouveautés qu'on leur ajoutera. Les chaînes d'arpenteurs dont vous avez parlé peuvent certes mesurer la distance qui nous sépare de tel ou tel point. Elles sont incapables d'évaluer la qualité du parcours. L'esprit géométrique peut saisir fortement quelques principes, mais il n'est pas capable de saisir la diversité qui nous entoure. En effet, peut-il distinguer tous les tons de voix, tous les marchés, tous les toussés, mouchés, éternués ? Peut-il distinguer des fruits les raisins et parmi eux les muscats? Vous partez des objets les plus simples pour monter aux plus composés. Ne doit-on pas plutôt partir des objets composés pour descendre jusqu'aux plus simples? Nous sommes peu assurés de nos pas, placés entre une infinité et un néant de nombre, une infinité et un néant de mouvement, une infinité et un néant de temps. Sur quoi on peut apprendre à s'estimer à son juste prix et former des réflexions qui valent mieux que l'ensemble de la géométrie elle-même. Vous parlez d'une méthode, sans doute. Mais n'y a-t-il pas nécessairement, pour rendre compte de l'infini, une infinité de méthodes que Dieu seul peut connaître puisque lui seul est infini?
Oui. Ce sont là, monsieur, des objections bien brillantes qui me sont déjà venues en tête, mais je les ai repoussées.
Peut-être la véritable... Voilà. Bon, merci, Armand Gury. Pardon, j'ai mal fait le signe pour faire le tapis. Voilà, sur cet extrait magnifique du téléfilm de Roberto Rossellini. J'ose dire qu'il est en ligne sur YouTube. Bon, voilà, que Internet nous serve à revoir de très beaux chefs-d'œuvre, tels que ce Pascal de Rossellini, téléfilm qui est sorti en 1972. Pierre Arditi, que nous écoutions là, jouant le rôle de Pascal. Et voilà, voilà, dans sa mise en question de Descartes et de cette raison toute puissante. Bon, on sait que Pascal a usé hein, de la pensée cartésienne. Bon. Alors revenons un petit peu sur les trois discours sur la condition des grands. Nous avions dit, Isabelle Raviolo qui est à mes côtés, nous avions parlé du premier discours où Pascal commence par une étrange fable hein, qui est l'image du dirigeant qui ne doit pas confondre la fonction, sa fonction, avec un quelconque droit naturel hein, et qu'il doit établir en lui-même une double pensée. Le deuxième discours, Pascal va poser deux sortes de grandeurs, hein, les grandeurs d'établissement et les grandeurs naturelles. Et enfin, le troisième discours, nous arrivons à la fin, Pascal va finalement énoncer la condition véritable du grand seigneur ou du futur dirigeant. Oui. Et nous sommes confrontés dans ce troisième discours à la question de la concupiscence, Isabelle.
Oui, c'est un terme qu'il reprend à Saint-Augustin, aux Confessions de Saint-Augustin. Il dit lui-même, en s'adressant au futur duc de Chevreuse, « En connaissant votre condition naturelle, monsieur, usez des moyens qu'elle vous donne et ne prétendez pas régner par une autre voie que par celle qui vous fait roi. Ce n'est point votre force et votre puissance naturelle qui vous assujettit toutes ces personnes. » Donc, la condition de roi, la condition de duc, etc., ce sont des conditions allouées. C'est exactement ce qu'il dira pour les qualités du moi, oui, hein, dans, oui, une oui. De, dans, une de, dans une pensée.
Oui.
Et donc, il lui dit bien, attention, les révérences qu'on vous fait, les titres que l'on vous donne, ce n'est pas vous-même.
Oui.
C'est ce qu'on vous demande de faire, le rôle qui vous est imparti, c'est tombé sur vous, mais c'était un hasard.
C'est un emprunt, sous-entendu, ça aurait pu tomber ailleurs, c'est ça ?
Oui, et de fait, ne prétendez pas, continue-t-il, de dominer par la force, ni de traiter avec dureté tous ces gens qui seront sous votre pouvoir, contenter leur juste désir, soulager leurs nécessités. Mettez votre plaisir à être bienfaisant. Avancez-les autant que vous le pourrez et vous agirez en vrai roi de concupiscence.
Voilà. Elle est étonnante, cette formulation. Hein.
Elle est très étonnante parce que il s'en explique un peu après.
Oui.
Et il faut faire attention au verbe quand on lit Pascal.
Oui.
Il dit juste après, il faut mépriser la concupiscence et son royaume et aspirer à ce royaume de charité où tous les sujets ne respirent que la charité. Alors on se dit, mais alors, il est en train de se contredire là ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? C'est le renversement, c'est pour ou contre, en
oui.
fait. Hein.
Oui.
Vous voyez ce qu'il dit dans La raison des effets à un moment.
Mm.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il est en train de dire à ce jeune, gouverner en homme chrétien, mais gouverner en homme chrétien, je vous mets en garde, c'est pas de faire advenir le royaume de Dieu sur cette terre, parce que c'est pas possible. Il lui dit ça, en fait. Hein.
Oui.
Il lui dit, la Jérusalem céleste, elle n'est pas de ce monde.
Oui, oui. On retrouve les idées voilà, augustiniennes.
Exactement, exactement. Et dans ce monde, il n'y a que concupiscence. Il n'y a donc que désir. Il n'y
oui.
a donc que moi avec des appétits. Et la vraie charité, la vraie justice, ce serait de ne pas penser que les gens qui agissent par concupiscence sont mauvais en soi ou n'ont rien compris. Ce sont des gens qui sont comme vous dans ce monde et qui n'ont que ça, au fond. Mais là, vous devez être plus fin, donc plus habile. C'est pour ça qu'il a cet adjectif d'habile. C'est d'avoir toujours une vigile de la conscience intime qui est cette double pensée, cette deuxième pensée, et qui vous fait agir au mieux dans ce jeu de théâtre, sur cette scène du monde, au mieux, c'est-à-dire le plus chrétiennement possible pour un roi, voilà, il y a quelque chose qui va faire dire à Pascal, à un moment, le roi ou le duc devra tromper le peuple. Et c'est une nécessité dans cette grande scène du monde, en fait. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve un peu des éléments de Machiavel.
Tout à fait, j'allais le dire.
On retrouve de ce qu'il disait dans Le Prince un peu avant, puisque c'est un texte antérieur, Le Prince, à ces trois discours.
Tout à fait. Oui, c'est intéressant, là, bon, mais on ne pourrait pas rentrer aujourd'hui dans un débat Machiavel-Pascal, et puis on va conclure, notre émission va bientôt toucher à sa fin, peut-être est-ce que je pourrais lire un dernier passage avant de clore. Donc de ce troisième discours, de trois discours sur la condition des grands de Pascal, il faut mépriser la concupiscence et son royaume et aspirer à ce royaume de charité où tous les sujets ne respirent que la charité, ne désirent que les biens de la charité. D'autres que moi vous en diront le chemin, il me suffit de vous avoir détourné de ces vies brutales où je vois que plusieurs personnes de votre condition se laissent emporter, faute de bien connaître l'état véritable de cette condition. Et c'est donc ces trois discours sur la condition des grands, une moralisation de ceux qui vont prendre le pouvoir ou qui ont déjà le pouvoir. Je le dirais de manière très simple, mais c'est peut-être pas tout à fait juste, mais il y a la nécessité pour eux d'une autocritique, en tout cas, d'une mise à distance de l'apparence que je donne, l'apparat dans lequel je suis et ce que je devrais être ou mon être intérieur véritable. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça?
Je pense.
Parce qu'il y a vraiment toujours une opposition entre apparence et être. Hein.
Mais il ne dit pas. En fait, là, il y a des points communs avec Rousseau, mais ce n'est pas Rousseau.
Non,
en fait,
il
faut faire très attention à ce que nos élèves ne confondent pas.
Oui.
Est-ce que Rousseau, il y a vraiment une attaque?
Oui,
ça ressemble
c'est
beaucoup
vrai.
Plus à ce que vous dites là, Nathalie.
Oui.
Chez Pascal, il y a. Sa philosophie est en train de nous dire voilà, là, vous ne faites. C'est qu'un rôle que vous avez.
Oui,
qui vous est donné là le temps de votre existence.
Oui, oui.
Mais ce rôle, il est futile, il est vain, d'accord, mais vous devez le jouer.
Oui.
Et,
mais il y a bien une moralisation du dirigeant.
Je ne dirais pas moralisation, du tout. Je dirais que Pascal nous met en garde contre une chose, c'est ce qu'on appelle juste et ce qu'on appelle injuste. Souvent, on pense comme des demi-habiles. On dit c'est trop injuste,
ou
il y a trop d'injustice. C'est dégoûtant dans ce monde, c'est un monde d'injustice, il n'y aura jamais la justice. Et Pascal lui dit mais ouvrez les yeux, oui, il n'y aura jamais la justice. Et ce serait même injuste de penser que ce monde doit vous donner la justice.
Oui.
Ce monde ne peut pas vous apporter la justice. La justice des hommes ne sera jamais juste, elle ne sera que coutume. On retrouve Swift et ses voyages de Gulliver, là,
oui,
complètement.
Oui.
Hein.
Tout à fait.
Donc, et ce qu'il dit bien, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Et plaisante justice qu'une rivière borne. Bah oui, plaisante justice qu'une rivière borne. Mais il n'y a que ça. Et donc, le problème de l'homme, c'est de croire que, comme un demi-habile, de croire que le monde lui doit la justice. Et c'est là qu'on confond les ordres.
D'accord. Bon.
C'est là qu'est l'injustice, chez Pascal.
Bon, on essaiera de reprendre des émissions sur Pascal.
Avec
voilà.
L'identité, notamment le moi, ce sera intéressant.
Tout à fait, ce sera très intéressant. Nous sommes obligés de nous quitter, chères auditrices et chers auditeurs. Nous étions en direct, mais vous pouvez consulter notre podcast de philosophie au présent sur www.aligrefm.org, 93.1, sur le DAB et en fréquence FM. Voilà, j'ai tout dit. Je vous invite à aller écouter aussi en podcast et en direct toutes les émissions de nos chers collègues et à peut-être, si vous le pouvez, faire des dons à Aligre FM qui ne vit que de vous et du peu d'argent que l'État ose encore donner aux radios libres. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. La prochaine fois, ce sera le 29 novembre avec Malika Temar qui vient parler d'un livre qui s'appelle « Philosophie et médias dans la presse française ». Merci beaucoup, chères auditrices, chers auditeurs. Merci à Armand Gury à la technique. Merci à Aligre FM d'accueillir depuis 7 ans le Collège international de philosophie.
7 ans déjà.
Dans Philosophie au présent.
Merci.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.